8h43 sur France Culture, mes amis des matins.
Bonjour.
Mathieu Conquet et Xavier Delaporte sont dans ce studio. Et Xavier, vous voulez nous parler d'une journaliste du New York Times, Rukmini Kalimaki.
Oui, et si je voulais parler aujourd'hui de Rukmini Kalimaki, c'est parce qu'on sait Internet est essentiel au fonctionnement de Daesh à bien des égards, et cette caractéristique a des conséquences jusqu'à la manière dont on s'informe à son sujet. Et c'est précisément le travail auquel se livre la journaliste américaine d'origine roumaine, donc Rukmini Kalimaki, pour le New York Times. Informée sur Daesh au plus près de ce qui se dit et se fait au sein de l'organisation. Alors, elle n'est évidemment pas la seule à le faire. David Thompson, le journaliste d'RFI, le fait en France. Mais elle est sans doute le fer du lance d'une pratique journalistique nouvelle qu'elle a détaillée dans deux longs entretiens qu'elle a donnés à la fin de l'été au Slate américain et au magazine Techno Wired. Alors, je vous livre juste quelques points que je trouve particulièrement intéressants. D'abord, Rukmini Kalimaki est une journaliste de terrain. Elle a voyagé dans toutes les zones de guerre. Elle continue de le faire. Le pan numérique de son travail n'est absolument pas exclusif de son travail de terrain. Et d'ailleurs, ce qui l'a amené à s'intéresser très tôt à Daesh, c'est une observation de terrain. D'abord, le recueil d'un nombre conséquent de documents internes à Al-Qaïda lors de la libération de Tombouctou. Et puis, lors de cette même libération de Tombouctou par la France, elle a remarqué que les combattants d'Al-Qaïda qui s'étaient dispersés était parti prolonger le djihad en Syrie, non pas aux côtés du front al-Nusra, ce qui aurait été logique, mais aux côtés de Daesh. Daesh que les Américains regardaient alors comme une organisation de seconde zone, encore tout au bonheur qu'ils étaient d'avoir l'impression d'avoir décapité Al-Qaïda en tuant Ben Laden. Tout part donc, chez elle, du terrain et d'une volonté d'aller contre le discours officiel de la Maison-Blanche. Mais c'est quand elle entre, Rukmini Kalimaki, dans le détail de son travail, que l'on saisit ce que c'est que ce journalisme des réseaux qui vient s'ajouter au journalisme de terrain, c'est-à-dire les heures passées sur Internet, remplaçant l'impossibilité des contacts directs avec des djihadistes rendus inaccessibles physiquement. Alors, elle raconte d'abord leur habileté à manier les réseaux, le fait que ce soit sur Twitter que se déroule, selon elle, l'essentiel de la conversation, mais qu'ils peuvent glisser quand ils en ont besoin vers d'autres plateformes, Tumblr, donc le blog visuel, ou Instagram, la plateforme de partage de photos. Elle explique aussi comment elle a appris à identifier les comptes de djihadistes sur Twitter, au vocabulaire qu'ils emploient, comment elle a appris aussi à identifier ce qui les relie, les réseaux qui se créent au sein de Twitter. Elle dit par exemple qu'avec l'application de messagerie Telegram, c'est plus compliqué puisqu'il faut connaître les adresses directes des gens, que liste de discussion se ferme vite, qu'il faut les retrouver parfois d'un jour sur l'autre. Elle explique aussi que les membres les plus affermis de Daesh ne parle pas à des journalistes ou alors pour les insulter. En revanche, il y a toujours dans les marges des gens qui parlent et elle raconte les heures qu'elle passe à s'entretenir avec eux par messagerie sans jamais pouvoir les citer parce qu'elle n'est jamais certaine de leur identité, de ce qu'ils font, ni même de là où ils sont vraiment. Mais ce sont eux qui la guide. Elle raconte que tout en ne donnant pas son vrai nom, ni le nom du journal pour lequel elle travaille, son pseudonyme dans tous ses réseaux rend évident le fait qu'elle est journaliste. Elle raconte aussi les liens de confiance qu'elle tisse avec certains à distance. Elle raconte aussi les autres acteurs du djihad en ligne, comme cet anonyme qui un jour la met en relation sur Twitter avec une jeune américaine sur le point de partir en Syrie. Et comment elle, Rukmini Kalimaki, se rend chez cette jeune fille pour l'en dissuader. Et cet anonyme, qui la signale, appartient à une masse informe d'autres anonymes qui passent leur journée dans les réseaux à traquer les comptes djihadistes, à les signaler, à repérer les gens qui sont en train de glisser. Elle dit ne pas savoir qui sont ces anonymes, simplement qu'ils se disent musulmans et qu'ils font un bien fou dans les réseaux et l'aident, elle, beaucoup dans son travail. Et elle dit, Rukmini Kalimaki, qu'elle passe sa journée à ça. Au point que son mari lui demande de ne pas regarder son téléphone avant qu'elle se couche, de peur qu'elle ne tombe sur une vidéo de décapitation envoyée par un correspondant. Et elle dit que la plupart du temps, ce sont des informations dont elle ne peut rien faire directement, qui lui arrivent comme ça, mais elle sait, elle apprend comme ça de quoi ça parle. Et donc, de quoi ça parlait dans les milieux djihadistes à la fin de l'été quand elle était interviewée par Slate et Wired? Des espions, disait-elle. Des espions identifiés par les djihadistes et que Daesh élimine. Et elle dit sentir là comme une sorte de fébrilité. Mais elle dit que ça parlait beaucoup, beaucoup aussi du concept de zone grise. Et je la cite, l'idée et qui veulent détruire cette zone supposément située entre le noir et le blanc. Le noir désignant tous les musulmans et le blanc désignant eux-mêmes. La zone grise, continue-t-elle, représente tous les musulmans modérés qui habitent en Occident, qui en sont satisfaits et qui se sentent impliqués dans la société où ils vivent. En interne, Daesh ne cesse de dire que l'une de ses tactiques est de faire disparaître cette zone grise. De toute évidence, continue-t-elle, certains discours de haine que nous avons pu entendre lors de la campagne présidentielle américaine vont tout à fait dans ce sens. Et Rukmini Kalimaki de s'inquiéter du discours de Trump qui lui semble, en ce sens, faire le jeu de Daesh, qu'elle ne vienne pas voir la campagne française.